À voix nue. Cette semaine, Marie-Laure Delorme me rencontre Carla Bruni. Ce soir, l'amour et l'Élysée.
Bonjour Carla Bruni.
Bonjour.
Après avoir parlé avec vous de la famille, de la beauté, de la musique, on va parler d'amour. Parce que vous avez la réputation d'être une séductrice, mais surtout parce que c'est par amour que vous vous êtes retrouvée première dame de 2008 à 2012.
Exactement.
Quand je vous ai proposé de parler d'amour, vous m'avez dit que vous préféreriez parler de sexe.
C'était pour rire.
Alors ça me permet quand même de poser ma première question. Il paraît que les deux tabous en France sont le sexe et l'argent. Est-ce que vous êtes d'accord?
Je ne sais pas pourquoi le sexe serait un tabou en France, dans la société française. Je n'ai pas du tout l'impression. En tout cas, si on se compare par exemple aux États-Unis, où c'est un tabou absolu, ainsi que le mensonge par exemple, eh bien... Enfin, la France me semble avoir un profil, nous, les Européens, j'ai l'impression qu'on a tous un profil infiniment plus, je dirais pas libertin parce que c'est un mot un peu précis, mais plus libertaire en tout cas par rapport au sexe. On tolère l'adultère, tandis qu'aux États-Unis c'est pratiquement un péché mortel. On tolère le secret. Donc... j'ai pas l'impression qu'en France ce soit un tabou. En revanche, je pense que l'argent est une espèce de tabou, mais ça c'est un peu historique. Ça doit venir, je pense, de ce goût pour la révolution qui n'a jamais quitté les Français, parce qu'une fois qu'on a goûté à la révolution, une fois qu'on a en quelque sorte écrit le traité des droits de l'homme, je pense qu'on reste un peu bloqué là-dedans comme une névrose.
Diriez-vous que l'amour, ça a été pour vous une affaire légère ou une affaire sérieuse? Et est-ce que vous avez évolué dans le temps?
Je crois que l'amour est une affaire très sérieuse pour tous, enfin pour tous les humains. Et quelle que soit notre histoire, évidemment l'amour, c'est pas seulement l'amour amoureux, celui où il y a du désir. Il y a toutes les autres amours qui sont terribles. Par exemple, l'amour qu'on a pour nos frères, nos sœurs, nos parents sont des amours très inquiétantes parce que on est vulnérable. On n'est pas construit quand on est enfant. Donc l'amour, par exemple, de l'enfance, c'est si on en manque, qu'est-ce qu'on fait? Si on en a trop, qu'est-ce qu'on devient? Comment le retrouver? On se souvient tous de cette phrase dans La Promesse de l'Aube où il dit « L'amour maternel vous donne à l'aube de la vie quelque chose qu'on retrouvera jamais plus ». En tout cas, celui de sa mère, Romain Gary, me semble être ce genre d'amour. Donc, mais alors, pas d'amour, on sait tous que pas d'amour, ça fait des gens terriblement démunis. Et on sait tous qu'il y a toujours une affaire de beaucoup d'amour ou pas d'amour derrière la vie des gens. Et il y a toujours cette affaire-là, elle explique toute leur vie. Donc l'amour, c'est une affaire importante pour tout le monde, et pour moi inclus. Et je ne sais pas si je réussis à analyser comment je me suis formée à l'amour. Je sais que comment je me suis formée à la mort, par exemple. C'est-à-dire que la mort, c'est quelque chose qui me terrifie. Et je sais qu'elle a dû rentrer dans ma conscience, la mort, assez tôt et d'une certaine manière, parce que j'y pense tout le temps. Elle est dans mes rêves, elle est dans mes cauchemars, et elle est aussi dans mes questions, etc. L'amour, c'est plus flou. Mais je pense qu'une vie sans amour, c'est une vie de détresse et de misère. Et je parle pas seulement d'amour... amoureux, et je parle aussi d'amitié, par exemple.
Quand on parle de vous, et vous le savez, une des premières choses que l'on dit, c'est que vous êtes une séductrice. Est-ce que ça vous agace?
Une séductrice, vous savez, c'est pas forcément pour obtenir l'amour, hein. En tout cas, c'est pas forcément avec un objectif de séduction, sexuelle, hein. La séduction, c'est bien plus diffus. Et c'est peut-être même une barrière contre le désir. C'est peut-être une manière de le contenir, une manière de le contrôler. Et il y a quand même quelque chose, quand on arrive à un certain âge, quand on dépasse l'adolescence, quand on devient une jeune femme, qui fait un peu peur dans le désir et dans l'amour qu'on peut avoir pour un garçon ou qu'il peut avoir pour vous. Il y a quand même quelque chose d'un peu brutal. Et je pense que la séduction, c'est comme une civilisation de toutes ces choses-là, et ça permet de prendre le pouvoir, de garder la distance, mais c'est pas forcément pour se retrouver dans les bras d'un homme, hein. Donc, pour moi, la séduction, c'est presque le contraire du désir sexuel. C'est comme une, au contraire, une espèce de, de danse bien élevée, de chorégraphie un petit peu. Jean-Jacques Goldman a écrit une chanson qui s'appelle Le Ballet et qui est une chanson sur ça, sur les prémices de l'amour, sur avant quoi. Et c'est vrai que quand on pense à cette phrase, le meilleur moment c'est quand on monte l'escalier, ou simplement quand on pense tous, quand on réfléchit à ce que c'est, moi en tout cas quand je pense à juste avant, quand on vient de rencontrer quelqu'un qu'on pense aimer, qu'on croit aimer, et qu'on n'a pas encore aimé, c'est vrai que ce frisson-là, c'est un frisson infini, parce qu'il n'a pas d'accomplissement, en quelque sorte. Et c'est ça que j'aime de la séduction. Après, les listes, surtout quand je connais pas les gens qui sont dedans, ça me trouble. Ça me trouble, je trouve ça... C'est pas question de pas assumer son passé, bien au contraire, franchement... C'est impossible pour quelqu'un, en plus de quelqu'un de public, de pas assumer son passé. Je veux pas. Mais je trouve que la séduction, bah, c'est le contraire de toutes ces listes. Et je trouve qu'on peut aussi se séduire mutuellement sans objectif amoureux. Quoi. La séduction, c'est tout le temps.
Vous avez épousé Nicolas Sarkozy en 2008. Beaucoup de gens ont douté de la longévité de votre mariage. Ça vous a blessé à l'époque ou pas du tout? Vous étiez
presque
au-dessus de ça.
Oui. La plupart des gens qui ont douté de ça, c'est des gens que je connaissais pas et qui nous connaissaient pas. Donc c'est naturel quand on est aussi connu que les gens fantasment en quelque sorte. Et puis on venait tous les deux, on est si différents, on venait de milieux si différents, on était tellement à l'opposé. Voilà. Puis les gens s'imaginent qu'on peut, par ambition, épouser un homme qui est président de la République, il s'imagine pas que pour quelqu'un qui est artiste, par exemple, c'est pas du tout commode. Il s'imagine pas que tout le monde n'a pas envie de pouvoir. Il s'imagine pas que ça peut être compliqué de se retrouver dans une telle position. Et je les comprends. C'est sans doute beaucoup plus compliqué de faire 2 heures d'RER le matin pour arriver à l'heure à la crèche pour son enfant ou pour pas perdre son job. Donc je comprends tout à fait que ce soit jugé comme une chose... Peut-être les gens se sont imaginés que je faisais ça par ambition, ou par cupidité, ou pour aller au palais de l'Élysée, ou que sais-je. Ils se sont pas rendus compte, ce que je peux comprendre, que tout ça, au fond, ça c'était dissuasif pour moi. Et que j'étais assez... j'étais soulagée de partir... De là-bas, avec lui. j'ai bondi un peu sur l'occasion, en fait. J'ai senti que c'était un homme avec lequel je pouvais faire un chemin important, profond pour moi. Je l'ai senti et j'ai fait, quoi que l'on croie, la vérité, c'est que j'ai fait une espèce d'impasse sur son métier et je l'ai faite parce que je l'ai vu avec ses enfants. Et j'ai vu sa douceur. Je sais que ça peut faire rigoler les gens qui nous entendent, ou même vous peut-être, Marie-Laure, mais la vérité, c'est qu'il y a une grande douceur en lui, et c'est cette chose-là qui m'a rassurée. Douceur n'est pas le mot. Il y a une grande... Il y a beaucoup de sentiments, voilà, en lui. Et donc, je me suis dit, un type qui a autant de sentiments, ça peut pas être un pervers. Donc, ça peut pas être quelqu'un qui a choisi de faire ce métier-là par perversion, quoi, non. C'est un dominant, c'est un alpha, c'est un bagarreur. Il a plein de choses qui sont très différentes de moi, mais c'est pas un pervers. Et je l'ai vu en voyant comment étaient ses enfants, la considération qu'il avait pour les gens autour de lui, quoi, par exemple.
C'est quelqu'un qui suscite des sentiments extrêmement forts, divers, contradictoires. Vous le vivez comment ?
Ah ben, ça me plaît bien, parce que c'est juste ça, il suscite des sentiments comme ça. Il est le contraire de l'eau tiède, quoi, en quelque sorte. Ça me plaît, parce que c'est la vérité. Il veut susciter des sentiments comme ça. Il est comme ça. Et la particularité, c'est que c'est pas un manipulateur, c'est pas un joueur, c'est pas un menteur. Et donc, ça m'a plu, parce que dans cette position-là, en fait, c'est comme s'il y avait une énorme loupe mise sur la personne et sur la personne qui l'accompagne. Donc, c'est vrai que j'aurais mal digéré un homme dans cette position, président de la République française, et en plus avec des duretés. Lui, il n'a pas de dureté. Et c'est quelqu'un qui ne se venge pas, c'est quelqu'un qui ne tue pas. Il n'applique pas les coutumes de son milieu. Et alors, ça m'a plu. C'est un outsider, quoi, un peu.
Lors de son discours de défaite de la primaire de la droite et du centre en 2016, il s'est excusé de toutes les épreuves qui vous avaient fait endurer à vous et à ses enfants. Ça vous a touché ?
Oui, ça m'a touché. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un affronter la défaite comme lui. Non, mais la défaite, et je connais des gens qui sont absolument, totalement politiquement contre lui, qui le lendemain de ses défaites m'appellent pour me dire « Mais non, j'ai eu tort, je l'ai vu hier, finalement, tu avais raison. » Non, mais il a parlé, ça m'a ému, etc., etc. C'est quelqu'un qui aime la défaite, il préfère gagner. Hein. Mais il aime la défaite parce qu'il sait, il sait, comme tout être humain, comme nous, on sait tous, que la défaite est une immense source d'apprentissage, une immense source de maturité. Il sait bien, on sait tous que le succès et que la réussite sont des leurs, on le sent bien. Qui disait ça? Je crois que c'est Chatterton ou tout. Oui, je crois que c'est Chatterton. Rien ne s'échoue comme le succès. Et c'est vrai, rien ne s'échoue comme le succès. Rien ne nous rend plus stériles, plus prétentieux, rien ne nous défausse autant et rien ne nous vide autant. Tandis que curieusement, l'échec et la défaite sont quand même des sources d'apprentissage et de plénitude immenses si on les dépasse. Alors il ne faut pas être quelqu'un de fragile qui... Parce que parfois il y a trop de défaites pour la vie de quelqu'un. Et parfois, ça donne de grandes mélancolies et des grandes tristesses et des grandes dépressions. Mais si on a la force nécessaire, la défaite, c'est une richesse. Et lui, il a beaucoup gagné, il a beaucoup perdu. Et donc, il sait faire avec les deux. Mais je trouve que dans la défaite, il prend un peu une noblesse qu'il a moins dans la victoire. Parce que comme il est bagarreur, quand il gagne, il jouit de gagner. Donc, il a aucune culpabilité envers ceux qu'il a battus. Il continue éventuellement à leur donner des petits coups de pied quand ils sont interdits. Dans la défaite, il change et il devient cet homme que moi, j'ai l'impression d'être seule à connaître. Et là, tout le monde le voit.
Quand vous parlez de vos années de première dame, on a l'impression que vous avez décidé de ne pas vous plaindre, hein, c'est-à-dire d'oublier le mauvais, voire de le nier, et de ne garder que le bon.
Oui. Mais globalement, dans ma vie, j'ai décidé de ne pas trop me plaindre. C'est pas tant pour vouloir paraître sympathique, mais c'est aussi par superstition. Je touche du bois en vous parlant. Franchement, on me viendrait pas trop l'idée de me plaindre, parce que j'ai peur. Parce que je peux pas me plaindre. Alors, on peut tous se plaindre. On a tous absolument le droit de se plaindre. Je dis sans doute n'importe quoi. Mais je trouve quand même que j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Et je parle pas de... Enfin, j'ai beaucoup de chance. J'ai quand même vécu une vie, par exemple, tout le temps entourée d'affection, quoi. J'ai eu beaucoup de chance avec l'amour, puisqu'on parle d'amour. Ne serait-ce que ça, c'est bonheur, hein, parce que si on a une espèce de minimum syndical en santé et l'amour, on a à peu près déjà tous les gens voudraient ça. Hein. Donc non, je voudrais pas me plaindre. De l'Élysée, pas du tout. Ça m'a pas semblé difficile. Et ce qui m'a semblé difficile sur le moment, je le ressens plus du tout maintenant. C'est comme si c'était vraiment balayé.
Mais est-ce que la pression n'était pas immense ?
Et j'aime bien la pression. C'est de l'intérêt, au fond.
Vous êtes une incarnation de la liberté, alors que vous n'aimez pas tant que ça, la liberté. Et est-ce que ça n'a pas restreint, justement, cette liberté ?
Un petit peu la liberté de parole. Ça l'a restreinte, c'est sûr, j'osais pas blaguer, mais l'autre liberté, je suis pas sûre que quiconque puisse la restreindre. Chez quiconque, il y a des gens qui sont complètement entravés, notamment par eux-mêmes, et des gens qui sont tout le temps libres, on ne sait pas pourquoi. Et moi, je suis issue d'une famille de gens assez libres, je m'en suis rendu compte plus tard. Évidemment, j'avais l'impression que c'était des bourgeois, qu'ils avaient des horaires, par exemple beaucoup d'horaires, et on pouvait pas, si on arrivait en retard à table, par exemple, on dînait pas. Bon, alors ça paraît une vie de contrainte, pas du tout libertaire. Eh bien, dans ces espèces d'horaires, par exemple dans ces murs, j'ai trouvé une grande, grande liberté. Cette chose de non pas juger les autres, par exemple, c'est une liberté qu'on se donne et qu'on donne aux autres aussi. Et on perd beaucoup de temps à juger autrui et à juger soi-même, hein, parce que ça part du même principe, j'imagine. Donc, je me suis toujours sentie libre et j'ai l'impression que la liberté, c'est un endroit, c'est difficile à situer. Et j'ai l'impression que même les mots, ils ont du mal à dire précisément la liberté. C'est quand même les mots sur certains concepts, le mystère, le désir, la liberté, l'amour, la dépression. Je trouve que les mots ont du mal dans ces choses-là à atteindre leur but. C'est comme si on tirait à côté de la cible un peu.
Est-ce que vous diriez que socialement, vous êtes une caméléone ?
Socialement, assez une caméléone, mais je n'ai jamais été mise dans des positions de m'habituer, par exemple, à une vie sans aucun confort. Une vie pleine de promiscuité, par exemple. Moi qui suis solitaire, je n'ai jamais été obligée d'être dans une grande promiscuité.
Vous avez besoin d'espace.
Oui, et ça, c'est une des choses qui sont données par le fait d'avoir un peu d'argent, c'est tout de suite l'espace. Donc par exemple, je me suis jamais adaptée à des choses compliquées comme la promiscuité, je pense que je m'y adapterais. Mais donc je suis adaptable, mais j'ai quand même une expérience assez limitée dans... Je suis toujours un peu dans la même société, quand même une société toujours un peu privilégiée, qui me permet par exemple la solitude. Et... Vous aussi, hein, vous aimez la solitude.
Oui, je pense qu'on a tous besoin de solitude et de silence, surtout dans la société actuelle.
Et vous êtes d'accord que c'est un grand privilège de pouvoir jouir de solitude et de silence, parce que c'est la première chose qui disparaît.
Là, l'entretien justement a lieu, pour reprendre l'expression de Virginia Woolf, dans une chambre à vous, dans une pièce à vous.
C'est ça.
Vous êtes entouré de photos de gens que vous aimez.
C'est un peu une pièce, un peu comme des restes des espèces de plumes qui restent de l'adolescence. Quand je rentre dans cette pièce, je me dis que les 14 ans de psychanalyse que j'ai fait n'ont servi à rien. C'est quand même déconcertant. Je vais me faire rembourser par mon docteur. Oui, c'est vrai, la fille, elle a 51 ans, elle vit dans une pièce qui est une pièce qui pourrait être bonne pour une fille de quoi ? De 16 ans ? Non mais franchement, c'est la honte ou pas ? J'ai tous mes petits trophées, en plus j'ai mis tous mes disques d'or comme une petite débile, comme si j'avais rien fait, comme s'il fallait toujours que je me remémore, que là, il y a mon disque, et que là, j'ai eu le prix par mes amis humains qui m'ont apprécié. Mendiant ton nez, mendiant ton mort, c'est ça. Non mais, et mais en revanche, il y a du silence, c'est vrai. C'est une pièce merveilleuse, hein. Je la critique, mais parce que je me dis, mais c'est pas possible, mais donc je vais vieillir sans mûrir, quoi.
Est-ce que vous diriez que tout au long de ces années, vos rapports avec les journalistes ont évolué ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un avant après votre mariage avec Nicolas,
oui,
Sarkozy.
Oui, je pense qu'il y a un avant et un après. Ben, c'est-à-dire que avant, vraiment, j'avais l'impression qu'il m'aimait. C'est salopard. Et après, beaucoup moins. Et avant, je me méfiais pas du tout. Et maintenant, je me méfie davantage, parce qu'évidemment, j'ai l'impression Non, je blague. D'abord, on ne peut pas contrôler cette chose-là. La seule manière d'avoir affaire à une image publique, c'est ou d'accepter de ne pas la contrôler, c'est-à-dire qu'effectivement, de temps en temps, il y a des gens qui ne vous aiment pas, ou qui ne vous apprécient pas, ou qui vous... Et qui parlent de vous en ce sens-là. Ça, c'est tout à fait normal. Si on ne l'accepte pas, ce n'est même pas la peine d'essayer de devenir connu, parce que c'est ça le contrat, c'est le contrat. Donc c'est dans le contrat, c'est écrit, vous le signez. Et donc c'est pas la peine après d'essayer d'enlever cette clause qui est prépondérante. Et l'autre chose qui est importante, à mon avis, dans le fait d'avoir une image publique, c'est de pas la confondre avec soi. Sinon après on devient fou. Et il faut éviter de croire que c'est quelque chose qu'on peut contrôler. On ne peut rien contrôler de son image publique. On ne peut rien contrôler du sentiment que les autres ont de cette image publique. On peut contrôler le fait d'avoir une image publique ou pas. Et si on est trop narcissique, ou si on est trop vulnérable, ou si on est trop susceptible, faire une croix dessus. Et si on est suffisamment résistant, et si on en a besoin, au fond, malgré les détails, alors là, on peut y aller. Mais il faut comprendre que c'est bien, beaucoup mieux expliqué par Jacques Lacan que par moi-même. Il faut comprendre qu'on n'y arrive pas avec l'image, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'y arrivera pas, et que c'est pas possible. Voilà, c'est pas une chose pour l'être humain. Moi, j'avais écrit une chanson dans le temps assez ratée, qui s'appelait « Le miroir ». Et la substance, elle disait, mais qui a inventé le miroir? Mais qui est le fou qui a voulu voir? Et je crois que c'est vrai que ça nous a ramené, ça a fait basculer notre siècle, je veux dire, cette affaire-là. C'est pas du tout anodin, c'est interdit par les trois livres de religion, les trois principales religions monothéistes, c'est interdit. Les hommes ont toujours su, même en se regardant dans le ruisseau. Heureusement, le ruisseau, ça bouge, donc c'était pas si précis, donc on voyait quand même pas si bien. On avait le regard d'autrui. C'était plus pratique. Donc l'image publique, ça s'échoue, ça nous détruit. C'est pas la peine de croire que ça va nous construire. Et quand ça nous construit, c'est presque pire. Parce qu'on sent que c'est un leurre.
Est-ce que vous, Nicolas Sarkozy, vous pouvez vous amuser de la distorsion, justement, entre l'image publique et l'image privée?
Ah ouais, je crois qu'on peut s'amuser de cette distorsion. Je crois qu'il faut s'en amuser. Et parfois, je dis pas que c'est pas blessant, mais c'est pas grave. Moi, quand mon mari était encore président de la République, par exemple, on me faisait tout le temps passer pour une idiote. Donc... J'avais une marionnette qui était une espèce de personne complètement idiote. Ah, je sais pas si je dégage ça, mais un peu peut-être. Peu importe. Lui, on le fait passer pour un bourrin inculte. Ça, c'est la base de lui, c'est un bourrin inculte. Bon, c'est un gentleman, mais hallucinant. Et quelqu'un qui ne pense pratiquement que à la culture. C'est très très curieux. Il a d'ailleurs fait un mandat en conséquence de cela. Hein. Ah, quand on compare, on rigole moins maintenant. Ah voilà, c'est sûr que... Parce que ça, les autres, ils ont coupé les crédits. Ah, ben oui, ça, c'est l'avantage des majorités de droite. Ils n'osent pas trop couper le crédit à la culture. Parce que la culture est tellement ennemie qu'ils n'osent pas se les mettre encore plus à dos. Et donc, en plus, mon mari avait non seulement un intérêt personnel pour la culture, mais je crois qu'il a raison, que dans les moments où vraiment la crise devient aiguë, il faut doubler la mise sur la culture parce que c'est une solution et non pas... Et c'est une solution à la crise. Et donc, je pense qu'il a raison, c'est créatif et ça crée tout, même du travail, la culture. Donc, je ne sais pas d'où vient ce truc où moi, je serais une idiote patentée et lui, un bourrin inculte, mais au fond, bon, c'est pas bien grave s'il pense ça. En tout cas, je suis sûre que nos amis ne pensent pas ça. Je suis certaine que ma famille ne pense pas ça. Je suis même sûre que nos enfants ne pensent pas ça. Donc... au fond, c'est quand même, je veux dire, on vit entouré de très peu de personnes dans la vie. On n'a pas besoin que 63 millions de Français, je n'oublie le chiffre exact, vous connaissent tel que vous êtes. D'abord, c'est impossible. Ensuite, le pouvoir, ça crée une distorsion. Et puis, c'est normal d'être critiqué à cette position-là. Les gens trouvent que c'est enviable. Et c'est enviable.
Au fond. En épousant, en aimant un homme politique, est-ce que la politique a envahi votre vie? Est-ce que vous le regrettez?
Elle a un peu envahi ma vie sur le moment. Et je le regrette pas parce que c'était quelque chose que je connaissais pas. Donc c'est comme si vous épousiez par exemple un chef japonais. Et là, tout d'un coup, vous voyez... Les sashimi, les sushis, les tempura envahissent votre vie. C'est pas grave, c'est quand même bon. Donc, voilà. Alors moi, j'ai pas un tempérament politique. C'est vrai, j'ai pas un tempérament très citoyen, je dois le dire. Je le dis du bout des lèvres, pas me faire engueuler. Mais c'est vrai, je l'ai un peu abordé avec lui à la quarantaine. Déjà, j'ai une nationalité française que j'avais pas, donc je pouvais pas voter en France. Et donc là, je suis devenue politique pendant ces 4-5 ans où lui était encore en politique et avec un objectif exclusif, lui. Donc j'ai même pas connu la vraie politique. On réfléchit, on se dit, tiens, cette personne dit quelque chose qui m'intéresse, mais je vais écouter ce que dit celle-là. Non, moi, j'écoutais que lui. Non, mais la dictature, quoi. Non, et j'écoutais que lui parce que j'étais en politique par amour. Et donc, je voulais l'aider que lui. J'étais tout le temps... Et même quand j'étais pas d'accord avec lui, c'est lui qui me plaisait. Bref, c'était complètement... C'était biaisé par l'amour que j'avais pour lui. Parce que même quand je pensais pas quelque chose, quand j'étais pas d'accord avec quelque chose, Ça m'était égal. Mais il faut dire que j'ai pas un grand tempérament de militante. J'apprécie les militants, je les admire, etc. Je sais pas comment ils peuvent passer du temps à faire ça. Non, ça me paraît fou. Et donc, mais je comprends, mais j'adore qu'il y ait des gens comme ça. Mon fils, par exemple, est très militant. J'adore, je trouve ça remarquable que les jeunes soient comme ça. Mais moi, ça me viendrait pas à l'idée, quoi. Moi, je milite pour, vous voyez, je sais pas. La descente chromatique de Chopin. Non, je milite, bien sûr. Je voudrais que tout le monde soit heureux. Je voudrais que tout le monde ne soit pas pauvre. Je voudrais que tout le monde soit choyé. Mais j'y arrive pas, quoi. Ça sera peut-être dans une autre vie. J'ai pas ce tempérament-là. Je suis un tempérament isolé, solitaire. Je fais pas partie beaucoup des groupes.
Et quand on dit que Carla Bruni est passée d'une femme de gauche à une femme de droite, c'est faux. C'est...
Mais je croyais que j'étais de gauche, pardi. Et je me suis mariée. Et là, j'ai vu que... Et là, en fait, évidemment, j'ai observé et puis j'ai eu l'impression que c'était nos ennemis. Ses ennemis. Vous connaissez le proverbe. Les amis de mes amis sont mes amis. Les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Les ennemis de mes ennemis sont un peu mes amis. Et les amis de mes ennemis sont mes ennemis.
Est-ce que justement ça crée des dégâts dans vos amitiés?
Non, pas dans mes amitiés. Non, non, j'ai des amitiés très... Pour moi, l'amitié, c'est pratiquement comme l'amour, quoi. C'est vraiment à la première place dans la vie. Donc j'ai des amis qui... Pour moi, les amis, c'est comme des frères et des sœurs que moi, j'aurais choisi. C'est la même chose que l'amour, et sans le désir, quoi. Sans le désir physique, sans la jalousie, sans en plus les choses un peu aiguës de l'amour qui rendent l'amour un peu inconfortable, je trouve, et un petit peu douloureux, quoi.
Est-ce que vous diriez que vous êtes passionnelle, Carla Bruni?
Assez peu. J'aime pas beaucoup la douleur qu'il y a dans la passion. Bien sûr, je suis passionnée, il y a certaines choses qui me passionnent, mais j'aime pas la douleur que la passion nous apporte. J'aime l'affection. Je dirais que je suis affectueuse. Après, j'ai eu des moments de passion et j'ai des moments de passion, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il me dépasse, quoi. C'est comme la colère. Mais quelle est la goutte qui fait déborder le vase? Mais quelle est la goutte qui fait déborder le vase? C'est le mot de Maxime de Forestier pour une chanson de Julien Clerc qui s'appelle La colère, qui est une chanson, je trouve, qui montre la passion et la colère. Mais quelle est la goutte? Mais quelle est cette goutte qui fait déborder le vase? Pourquoi tout d'un coup, ça monte? J'aime pas les moments comme ça. C'est trop chaud pour mon organisme. Ça me trouble, après ça me perturbe le cœur, le corps. Bien sûr, je connais la passion, mais elle m'emporte dans un endroit que j'essaie d'éviter.
Merci Carla Bruni,
merci
à demain.
Merci à vous, à demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Marie-Laure Delorme avec Carla Bruni. À voix nue, réalisation Lionel Quentin, prise de son Romain Luquiens, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.